Bonjour, j'espère que vous allez bien.
Bienvenue dans cette nouvelle session.
Bienvenue avec nous.
Nous sommes très heureux de vous retrouver. Donc nous venons de passer 5 vidéos ensemble à définir le rôle du mari et de la femme. Pour que tout cela fonctionne bien, on va avancer un petit peu plus loin et regarder comment est-ce qu'on organise notre vie en fait au quotidien.
Alors ce qu'on voudrait faire avec vous, c'est pour démarrer simplement vous dépeindre ce qui pourrait être une journée classique de la plupart d'entre nous. Je vais volontairement forcer un petit peu le trait pour vous, peut-être vous faire sourire, mais c'est surtout pour qu'on comprenne tous ensemble de quoi est-ce que l'on parle. Donc si vous regardez à ce qui consomme le plus de votre énergie, le plus de vos pensées, le plus de votre activité, le nombre d'heures par jour, etc., je crois que nous sommes tous d'accord, la chose qui arrive en premier, c'est notre travail. On y consacre beaucoup de temps et c'est normal puisqu'on en vit. On en parle beaucoup, on y pense beaucoup souvent. Quand on rentre à la maison, on est encore en train d'y penser dans la voiture, etc.
On a du mal à débrancher.
Si on arrive à débrancher du tout. Donc oui, le travail arrive en numéro un. Après, souvent, bien, il y a les amis qui souvent sont les amis du travail. Donc devinez de quoi on parle avec eux. Souvent, bien, on parle encore du travail. Les amis, peut-être vos parents, peut-être vos frères et sœurs autour de vous, toute la famille étendue. Bon, déjà, ça comble bien votre journée. Puis peut-être qu'ensuite, bien, vous avez des réunions à l'église, en semaine, par exemple. Alors, votre journée n'est pas terminée. Peut-être même que vous n'avez même pas le temps de rentrer à la maison. Vous allez directement, vous avez un service, vous êtes responsable d'un service dans l'église, ou bien simplement, vous allez assister à la réunion pour être là, pour servir par votre présence. Et donc, bien, ça se rajoute à la journée. Ensuite, finalement, vous rentrez à la maison. Et puis là, bien, vous êtes déjà pas mal fatigué de tout ce qui s'est passé dans la journée. Et puis, si vous avez eu la joie d'accueillir des enfants dans votre mariage, eh bien, mais vous savez que des enfants, ça mange. Des enfants, il faut leur préparer le repas. Il faut s'occuper d'eux, bien entendu. Il faut les aider dans leurs devoirs à la maison. Il faut prendre du temps avec eux parce que ça, c'est très, très important. Il faut regarder si tout va bien, discuter avec eux, etc. Et puis, bien, la journée est presque déjà finie, mais il vous reste encore un petit peu de temps avec votre conjoint. Et souvent, on est déjà pas mal fatigué. Alors, s'il y a des sujets un petit peu tendus entre nous, et on se dit, bon, il faudrait qu'on en parle de ça quand même.
Demain, c'est ravi, demain.
Allez, on va le mettre demain parce que je suis déjà tellement fatigué. Et puis, peut-être que si jamais la discussion dérape et qu'on commence à se disputer, on va pas envie de se disputer juste avant de se coucher. Donc, allez, on le repousse à demain. Et puis, si vous avez encore un petit peu d'énergie, peut-être que vous aurez un moment tendre tous les deux le soir, mais ce sera pas le feu d'artifice, vous êtes déjà tellement fatigué. Et puis, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste un tout petit peu de temps avant que vous vous endormiez. Eh bien, souvent, ce temps, bon, mais on va prier un petit peu le Seigneur, ou alors peut-être que ce sera au début de la journée, juste au saut du lit, avant que toute la folie de la journée commence. Mais on va passer un petit peu de temps dans la présence du Seigneur, mais force est de reconnaître que le Seigneur a vraiment la portion congrue, le tout petit morceau qui reste, les miettes, soit à la fin, soit au début de la journée. Alors je sais que je pousse le trait un petit peu fort, mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que ça ressemble à une journée assez classique de la plupart d'entre nous? Alors maintenant, dites-moi ce qu'il y a de bizarre avec cette journée.
Qu'est-ce qui cloche avec
Qu'est-ce qui cloche? Travail, amis et famille étendue, ensuite le service pour Dieu, aller à l'église, ensuite les enfants, mon conjoint et puis Dieu. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ça semble être à l'envers, non? En fait, oui. On vit notre vie en marchant sur la tête. Et la vie nous pousse dans cette direction. Et il semble que tout soit inversé dans ce que nous devrions faire, dans les priorités que nous plaçons dans notre vie.
Évidemment, si on retourne la pyramide que tu viens de nous décrire et qu'on la met dans l'autre sens, eh bien, on va se retrouver en face des priorités que Dieu veut pour notre vie.
Oui.
Lui en premier, ensuite notre conjoint, puis nos enfants, puis l'église, le service, ce que l'on fait, ce que ça nous demande de faire, donc dans son cadre à lui.
Et
ensuite, dans son appel. Après, viennent bien sûr les amis, famille étendue et en dernier, le travail. Juste pour que vous puissiez avoir une image de à quoi ça représente, vous savez, dans les mariages en France, il arrive quelquefois qu'on construise une fontaine à champagne. Donc on va faire une belle pyramide avec des fois des centaines de verres. Il y a des fontaines qui sont très impressionnantes. On va les empiler les unes sur les autres avec des cercles de plus en plus petits. Jusqu'à arriver au sommet, on va mettre un seul verre. Et le serveur, ou le couple d'ailleurs, les mariés, vont venir et remplir le verre supérieur, le remplir de champagne. Ils vont verser leur bouteille seulement dans ce verre supérieur qui va ensuite déborder jusqu'à remplir le deuxième rang où il y aura deux verres, et puis ensuite déborder jusqu'à remplir le troisième rang, et puis le quatrième, le cinquième. Vous voyez l'image qu'on essaie de vous faire
jusqu'à
passer.
Jusqu'à ce qu'ils soient tous remplis, en fait.
Voilà, et avec patience, mais sans faire beaucoup d'efforts, puisqu'il suffit de verser dans le premier verre, le champagne va dégouliner de haut en bas. en fait, jusqu'à ce que tout soit rempli.
Absolument.
Et on peut garder cette image-là pour comprendre comment est-ce que Dieu veut qu'on fonctionne avec lui, dans les priorités que l'on accorde à notre vie, en fait. Le plus vous passez du temps avec votre relation avec Dieu, le plus votre couple sera béni, puis vos enfants, puis votre service, l'église, le ministère si vous êtes investi, ou le service ou la vie d'église tout simplement, puis vos amis, votre famille étendue et votre travail.
Imaginez, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire finalement.
Imaginez quand on investit tout son temps au niveau du travail par exemple. C'est comme si vous couriez tout autour de la pyramide pour essayer de remplir les verres l'un après l'autre en fait.
Absolument.
Le champagne ne remonte pas, le courant comme le saumon ne remonte pas les niveaux. Il n'y a rien à faire. Si vous vous épuisez à remplir des niveaux inférieurs, enfin qui sont plus bas, eh bien les niveaux supérieurs, ceux qui sont des enfants, du couple et de Dieu, vont s'assécher jusqu'au point de devenir un endroit de souffrance.
Ça me fait penser, est-ce que quand on investit dans son travail ou bien pour certains dans le service pour Dieu et on fait beaucoup, beaucoup parce qu'à ce niveau-là, beaucoup de verres à remplir, eh bien en fait on peut s'épuiser.
C'est ça.
Et finalement, les étages qui sont au-dessus et qui semblent être les plus importants, c'est-à-dire les enfants, le conjoint et puis Dieu, ben, eux ne sont pas remplis.
Tout sec.
Ils sont secs.
Concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique?
Parce que ça veut dire qu'il faudrait passer tout son temps simplement à louer Dieu, à prier et rien faire d'autre.
Ce ne serait pas très réaliste.
Ce serait pas très
parce
réaliste.
Parce qu'on vit dans un monde où on est obligé évidemment d'aller travailler. C'est même un privilège que de pouvoir travailler.
Absolument.
C'est un privilège que d'avoir des amis. C'est un privilège que d'avoir une vie d'église. Il y a des pays où malheureusement c'est
pas possible.
Aussi simple. Si vous avez des enfants, quel bonheur d'accueillir des enfants, même si tous les jours c'est pas simple. Si vous êtes marié, quel bonheur d'être marié, quelle belle aventure et quel bonheur de connaître notre Dieu. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement? Je vais vous donner encore une fois une image pour essayer que vous puissiez la garder et la digérer. Je sais pas si vous avez fait cette expérience au niveau du lycée, mais des fois on vous demande de remplir une bassine. Une bassine et on vous met des tas de pierres de tailles différentes. On vous dit que le volume de ces pierres représente le volume de la bassine.
Et donc normalement tout peut rentrer.
Normalement tout peut rentrer. Il faut trouver le moyen de le faire rentrer. Bien, si vous commencez par les petites pierres, que vous les mettez en première, elles vont remplir la bassine et il n'y aura plus de place pour les grosses. Par contre, si vous placez en première la plus grosse des pierres, puis ensuite les deux plus petites, puis ensuite celle de taille inférieure, ainsi de suite. Eh bien, les toutes petites pierres, qui sont la quantité la plus importante que vous avez, en nombre de pierres par elles-mêmes, vont se mettre au milieu des
trous,
des interstices, et vous allez pouvoir remplir la bassine en entière avec chacune de vos pierres. Vous voyez où est-ce qu'on veut vous emmener? Si vous prenez du temps d'abord, quelle que soit la manière avec laquelle vous l'organisez, pour mettre tous ces niveaux en place, eh bien, vous quand même aurez du temps pour passer toutes vos heures à votre travail, etc., et tout prendra du sens. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien et il nous donne aussi le moyen d'y arriver.
Oui. En fait, c'est à vivre sa vie en respectant l'ordre des priorités de Dieu est un moyen de regagner le contrôle de notre vie. Voilà. Je me souviens, pendant les années où j'étais un étudiant sur Paris, quand je venais de province le week-end, en début de semaine, le lundi matin, le train arrivait. Le train n'était toujours pas arrivé en gare, que tout le monde déjà se pressait vers les portes. Et puis dès que les portes s'ouvraient, tout le monde courait et on courait vers le métro. Et dans le métro, on courait encore. Et je me souviens courir et à un moment, avec le flot, à un moment de m'arrêter et me dire « Mais pourquoi je cours au fait ?» Parce que j'avais même pas à aller à l'université. J'avais aucune raison de courir. Mais tout le monde courait autour de moi, donc je courais aussi.
On est entraîné par la vie.
Parce qu'on est entraîné, mais si je cours pas, j'ai l'impression que je manque quelque chose. Et la vie ressemble à ça par moments. Tout le monde court et c'est la vie qui décide de vos choix, qui décide de vos orientations, et ce n'est plus vous qui êtes en contrôle de votre existence. Mm-hmm. Et je crois qu'il est important pour nous, en tant que croyants, de réaliser qu'en Christ, nous avons la possibilité de reprendre le contrôle de notre vie, et d'avoir une vie qui soit satisfaisante, et qui donne le sentiment qu'elle vaille la peine d'être vécue.
Vous voulez bien prendre le temps de vérifier où vous en êtes? On va vous donner quelques questions pour que vous puissiez réfléchir tous les deux, faire le point sur votre vie et qui contrôle votre vie.
Absolument. Donc, prenez du temps. On vous demande par exemple de choisir au hasard, pas des semaines de vacances évidemment, mais prenez deux semaines de travail, n'importe lesquelles dans les mois qui viennent de s'écouler, et puis écrivez ce qui s'y est passé jour après jour, si vous pouvez faire cela. Et puis regardez comment se sont organisées vos priorités dans votre vie. Faites-le avec honnêteté, avec transparence, en vous disant « Ok, je veux faire... » le point sur ma vie, la façon dont je l'organise. Donc, soyez honnête avec vous-même et avec votre vie, et puis tirez-en des conclusions. Et tous les deux, faites-le peut-être séparément pour voir si vous avez les mêmes analyses. Et encore une fois, après, mélangez vos conclusions, réfléchissez-y ensemble. Et puis ensemble, regardez ce que vous pourriez faire pour changer cette réalité.
On va continuer de discuter sur ce sujet hein, pour vous donner des choses très pratiques pour pouvoir mettre en place. Mais la première étape, c'est de faire le point honnêtement, de faire le bilan pour savoir où vous en êtes. Et puis, si vous voulez bien aussi, méditez sur le verset d'Ecclésiaste 3, tout le passage
chapitre,
de 1 à 8.
Le chapitre 3, les versets 1 à 8.
Vous savez, il y a un temps pour chaque chose.
Voilà, qui nous rappelle qu'il y a un temps pour chaque chose et que donc on peut et même on devrait pouvoir organiser notre vie en fonction de nos choix prioritaires, pas en fonction de ceux qui nous sont imposés, jusqu'à une certaine mesure, par le reste de la société.
On vous retrouve la prochaine fois pour commencer à décortiquer tout ça.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
À bientôt.
Que Dieu vous bénisse. Bon courage.